jolis sentiments, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc le voir sans cesse au fond de nos cœurs. Des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Jusqu'à la fin du jour.
Et je trouve que ça introduit vraiment très très bien notre notre causerie là de ce soir. L'importance de la douceur, l'importance de la tendresse. Elle désarme. Voilà, donc on va un peu approfondir ça. Alors figurez-vous que j'ai découvert quelque chose, mais peut-être que François me contredira, ou peut-être les autres confrères prêtres. Je voulais prendre un psaume qui aille dans... Parce que, en fin de compte, la question de la douceur, c'est aussi la question du service des autres. Et bien, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de psaume qui demandait de prendre soin des autres. On dit que Dieu prend soin, mais on n'est pas le psalmiste ne se met pas en posture de se dire « Tiens, il faut que je prenne soin de celui qui est en difficulté. » Dans la Bible, oui. Hein, plusieurs fois, Dieu dit qu'il faut s'occuper de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin. Ça revient comme un refrain, très régulièrement, à travers tous les prophètes. Et c'est le sacrifice qu'il aime, c'est de prendre soin de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin. C'est-à-dire des personnes en situation difficile. Il relève les pauvres. Voilà, mais c'est Dieu qui le fait. Oui, oui, il le fait. Mais le fait de se mettre le psalmiste en posture de « je prends soin des autres », je n'ai pas trouvé en tant que tel. La seule chose que j'ai trouvée dans le psaume 132, « Oui, il est bon, il est doux, pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. » On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Voilà, donc il est bon de vivre en frère. Mais sinon, celui qui est là, voilà, du coup, ça m'interpelle un peu. Bon. Mais ça ne va pas nous empêcher de regarder quand même notre relation aux autres. Et alors, quand je parle de relation aux autres, il va falloir que vous ayez régulièrement, toute la semaine, relations dans la famille, soit en couple, soit avec les enfants, soit les parents, enfin voilà, tous les niveaux de la famille. C'est aussi les relations de voisinage, relations amicales, professionnelles, paroissiales, enfin voilà. À tout niveau, quelles sont mes relations? Qu'est-ce que j'ai à vivre là? Et Bien sûr, on va s'attarder peut-être un peu plus longtemps sur les choses qui vont pas bien, mais c'est fort intéressant de commencer par se dire, tiens, dans mes relations, qu'est-ce qui va bien ? Parce que souvent, on prend contact avec le voisin le jour qu'il y a la branche qui est tombée sur notre hangar. Alors, comme premier contact, c'est pas terrible. Un coup, en discutant avec une prof, là, il y avait des conseils de classe, et elle me disait un peu comment ça se passait, et je titillais sur l'importance de dire des choses bien. Elle me disait, c'est vrai que quand on fait le conseil de classe, quand il y a un élève qui va bien, on dit, il n'y a rien à dire. Mais c'est terrible. Comment ça ? Elle est assidue, elle a de la jugeote, elle est aidante, elle est participante, elle est attentive, enfin, il y a plein de choses à dire sur un élève qui va bien. Et manque de peau, encore une fois, on le met au placard. Et on ne reste qu'avec les cas. Et du coup, on est découragé. Et on finit par dire, oui, de toute façon, il n'y a jamais de jambon, quoi. Enfin, excusez-moi, mais il n'y a jamais de... Voilà. Eh bien si, il y a plein de gens qui vont bien. Il y a plein de relations qui sont bonnes. Ne limitons pas nos relations à ce qui ne va pas. C'est le propre des médias, hein. Les médias ne nous montrent que ce qui ne va pas. Et on est plombé. Enfin, c'est très très malsain de regarder les informations. Si on veut jeûner, le jeûne du journal, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'informer. Mais celui qui nous montre aux 20h ou au BFM ou tout ça, c'est pas aidant, quoi. Ça ne nous aide pas à porter le monde. Or, l'un des rôles des chrétiens, c'est de porter le monde dans la prière. Pas que dans la prière, mais aussi. Bien sûr, relation aux autres, mais du coup, les autres, relations avec soi. Est-ce que je sais recevoir un compliment ? J'ai un ami qui est ébéniste. Il est à Marseille, Michel, et il embauchait il accompagnait des apprentis, et plutôt des apprentis qui avaient eu quelques difficultés avec la justice, donc plutôt des apprentis en difficulté, donc il faisait un travail un peu aussi de réinsertion. Et puis un coup, donc il y en a un jeune là, il lui dit de faire une pièce, il l'a fait. Et s'il passe du temps pour le faire, il le fait bien. Et du coup, à la fin de la journée, Michel le félicite. Il dit, franchement, super ce que tu as fait. Le jeune, il lui a carrément tapé dans... Enfin, il lui a donné des coups de poing dans la figure et contre lui. Il s'est mis en colère et il l'a frappé. Alors, heureusement, Michel, c'est un costaud, il a réussi à le maîtriser. Donc, il l'a plaqué au sol, parce que c'est un jeune qui était costaud aussi. Il l'a plaqué au sol, il me dit, mais calme-toi. Je viens de te dire que tu as fait quelque chose de bien. Ouais, c'est pas possible, c'est pas vrai. De toute façon, il n'y a jamais personne qui a dit que j'avais quelque chose de bien. Alors, c'est peut-être de l'extrême, avec des jeunes qui n'entendent jamais quelque chose de positif sur eux. Mais peut-être à nous, est-ce qu'on a quand même la capacité de bien accueillir un compliment ? Quand je fais réagir là-dessus, souvent on dit « Oh oui, il a dit ça pour me faire plaisir. Il est brave. Il est gentil. Oh. Oui, enfin, je suis pas sûr que ce qu'il dit soit vrai. Peut-être qu'il a quelque chose à me demander. » Elle est imparable, celle-là. Et ça, ce qui fait qu'à la fin, on en doute. Un grand compliment de départ, il se termine tout petit et on ne le met même pas dans le cœur parce qu'on doute. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vous dit un défaut, alors là, c'est direct dans le cœur. Hein. Il n'y a aucun filtre, et boum ! Et comme on est vexé, on se referme sur soi, on se replie et on se le ressasse en permanence. Ou on envoie des coups de poing, oui, 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 aussi. Donc, voilà, est-ce que je sais donner des compliments aux autres et est-ce que je sais en recevoir ? Parce que souvent, là aussi, mais peut-être qu'on le verra tout à l'heure avec le service. Ouais, on va avancer tranquillement. Mais voilà. On peut se poser aussi la question, quels sont les intérêts d'être en lien avec les autres ? Qu'est-ce que les autres m'apportent ? Qu'est-ce qui fait que je garde des liens, que je les tisse et que je les entretienne, ces liens-là ? Et là, encore pareil, hein, au niveau de la famille, au niveau des amis, de la paroisse et tout ça, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais à chaque fois, il faut repasser les différents cercles. Quels sont les intérêts de rester en lien avec des personnes ? Qu'est-ce qui m'apporte ? Et puis, bien sûr, il faut toujours inverser. Qu'est-ce que je leur apporte ? Donc, ça permet de poser un peu les affaires. Est-ce que j'ai plaisir à réaliser des projets avec eux ? Derrière ça, il peut y avoir la grosse question, quel style de société je veux ? On est dans une société de plus en plus individualiste. Je n'ai pas besoin des autres pour vivre. Ben, sauf que dans la Genèse, Dieu a de suite compris qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc j'ai besoin des autres. J'ai besoin de reconnaissance. C'est intéressant de le nommer, de le repérer. Et ensuite, comment nous... Donc je comprends que les autres aussi ont besoin de reconnaissance. Bonne ou mauvaise, mais... Alors, pour Saint Vincent, le grand exemple de la douceur, c'est Saint François de Sales. Ils étaient contemporains, ils se sont connus, ils étaient amis. Et même François de Sales, qui était plus âgé quand même que Vincent, quand il était à Paris, il a demandé à Vincent d'être l'aumônier du couvent qui venait de fonder la Visitation à Paris. Donc ça dit un peu toute l'amitié qu'il y avait entre eux. Et toute sa vie, Saint Vincent régulièrement parlera de Monsieur de Genève, c'est-à-dire l'évêque de Genève, qui était François de Sales, qui était vraiment avec une très très grande douceur. Et il mettait souvent aussi humilité et douceur ensemble. Voilà, Saint Vincent nous donne différentes étapes pour vivre correctement la douceur. Et donc la première, c'est vis-à-vis de soi. Alors, je dis qu'on va parler des autres, et de nouveau je reparle de nous. Mais on peut dire aussi, je suis un autre moi-même. Et donc j'ai à être en relation avec moi. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens, chez les jeunes ça c'est très très souvent, mais même parfois chez les adultes, la peur du silence. Parce que le silence, ça veut dire que je suis face à moi-même. Mais un vrai silence, hein, un vrai vrai. Et il faut que j'apprenne à m'apprécier. Je demande souvent aux jeunes, je leur dis, quand tu es avec tes amis, ça va bien, ça se passe bien tout. Ah oui, je suis tranquille, je suis bon. Quand tu es tout seul, comment ça ? Ah non, je ne supporte pas d'être tout seul. Ah bon. Donc, quand tu es avec tes amis, tu vas bien. Quand tu es seul, tu vas mal, égal. Alors j'ai laissé un peu patiner. Cherche. Lorsque je suis avec mes amis, je vais bien. Lorsque je suis seul, je vais mal. Égal, je ne suis pas mon ami. C'est quand même dommage. On passe 24 heures sur 24, toute notre vie, avec nous-mêmes. Et je ne le supporte pas. Vous voyez ? Cette importance de la relation. C'est Saint Vincent qui nous dit « Je dis que l'homme est ainsi fait que lui-même, le plus souvent, a occasion de se supporter soi-même, tant il est vrai que cette vertu de support est nécessaire à tous les hommes, même pour l'exercer envers soi-même, que l'on a peine quelquefois à supporter. » Et c'est vrai que des fois, on est un peu gonflant avec nous-mêmes. Donc il faut... La douceur, pour la travailler, c'est regarder aussi son contraire. Et l'un de ses contraires, en tout cas, c'est la colère. Et voilà, des fois, on peut s'emporter, parce que voilà, du coup, ça fait Saint Vincent qui prend l'exemple du torrent qui dévale, qui déverse tout, qui casse tout sur son passage. Bon, ça ne dure pas longtemps et ça ne porte pas de fruits. Et donc, il nous dit, il faut réprimer les mouvements de la colère, les saillies de ce feu qui monte au visage, lesquelles troublent l'âme et font qu'on n'est plus ce que l'on était. La colère, ben oui. On est, comme on dit, il est sorti de ses gonds. Je ne l'ai même pas reconnu tellement il était rouge vif là. La deuxième manière pour avancer sur la vertu de la douceur, c'est de regarder le modèle par excellence, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il dit lui-même, « Je suis doux et humble de cœur. Il est mon Dieu, mon modèle, mon maître, celui que je veux vivre en tout. » Donc, si je veux progresser dans la voie de la douceur, il me faut le contempler. Et alors là, Saint Vincent nous dit, nous le contempler dans sa passion et sur la croix. Même là où tout le monde lui tombe dessus, c'est hyper violent, on sait très bien ce que c'est que la passion du Christ, il n'a que des paroles de douceur. Il parle aux brigands, en disant avec toi, tu seras avec moi au paradis. Il s'occupe de sa mère et de Jean. Voici ta mère, voici ton fils. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est quand même... Quelle puissance de douceur dans le chaos le plus terrible qui soit. Et puis la troisième étape qu'il nous propose, c'est l'attention aux autres, à ceux qu'on va rencontrer. Et il nous dit avoir une grande affabilité, cordialité et sérénité de visage vers les personnes qui nous abordent, en sorte qu'on leur soit à consolation. Est-ce que je me prépare à aller rencontrer quelqu'un? Est-ce que je me... Parce que Saint-Vincent, il vient assez souvent là-dessus, de dire, voilà, il faut avoir un visage gai, un visage joyeux. Et il vaut mieux laisser nos affaires à la maison. Et quand on va à la rencontre de quelqu'un, ben c'est vrai que quelqu'un qui nous sourit, on a spontanément envie de lui sourire. Donc là, il y a un travail sur soi à faire. Et puis, il va nous dire aussi que la douceur a une finalité missionnaire. Pour lui, ça, c'est fondamental. Les filles de la charité en ont besoin pour créer entre elles un paradis. Voilà, la douceur crée un paradis communautaire. Mais aussi pour leur présence aux pauvres. Et puis, les missionnaires doivent se montrer doux dans les missions, dans les prédications, dans les controverses avec les réformés. Et surtout avec les pauvres, tels les esclaves, les forçats. Il est clair que pour lui, la douceur gagne les cœurs. Jamais, dit-il, l'aigreur n'a servi qu'à aigrir. Parce que de fait, un autre contraire de la douceur, c'est être aigri. Un yaourt aigre, c'est pas bon. Bon, nous savons que le monde est de fait génère beaucoup de violence, ça on le sait trop, beaucoup de morts, d'agressions, d'attaques, de brutalité, de vengeance, d'exagération, et quand on est maintenant avec les réseaux, c'est encore pire. Et ils ne nous font que rentrer dans la violence, et toujours la surenchère de la violence, la surenchère de l'opposition des uns avec des autres. On ne cherche jamais le bien commun. D'ailleurs, même dans le monde politique, on dit on fait des débats. Oui, ils se débattent. On ne cherche pas le bien commun. On cherche à se débattre pour sauver sa peau à soi. Mais du coup, on n'avance pas ensemble. Et alors, Saint-Vincent nous dit, quand il y a quelqu'un qui nous agresse, ne serait-ce que verbalement, hein, quelqu'un qui nous parle mal, avec une parole blessante, Saint-Vincent nous dit... Après avoir reçu des plaisirs de quelqu'un, on passe outre, on n'en témoigne rien. C'est facile à dire. Hein. Combien de fois nous répétons une mauvaise chose qui nous est arrivée? Et combien de fois nous répétons une bonne chose qui nous est arrivée? 2-3 fois quand c'est bon, 20 à 40 fois quand c'est mauvais. Son conseil, il est tout simple, Mais si on ne le met pas, qu'est-ce qui se passe? On va envenimer la situation. Alors, il nous propose encore des petits exercices très pratico-pratiques. Il nous propose de prévoir les occasions de colère. Il y a des gens, on sait très bien qu'au bout d'un quart d'heure avec qui je vais être, il va déjà m'agacer. Parce que la manière dont il parle, la manière dont il fait, la manière dont il agit ou je ne sais trop quoi, je sais qu'il va me titiller. Donc, Saint-Vincent, il dit, il faut les prévoir. Voilà. Et après, comment je vais pouvoir agir? Est-ce que je peux m'arranger à ne pas rester trop longtemps avec la personne qui m'agace systématiquement? Autre point qu'il nous propose, c'est de détester ce vice. C'est étonnant parce qu'il y a des personnes presque qui s'identifient à leur colère. Ils ne sont satisfaits de leur journée que quand ils se sont mis en colère. Ils ont entendu, ben voilà, moi j'ai dit les quatre vérités. Oui, enfin, si c'est pour casser tout le monde, tes quatre vérités, elles ne sont pas bonnes. Il y a la manière de le dire. Ensuite, c'est de calmer la passion avant de parler ou d'agir. D'ailleurs, il dit, quand on a un bisbille avec quelqu'un, il ne faut pas aller le voir tout de suite. Il vaut mieux attendre le lendemain, comme on dit, la nuit porte conseil. Donc on s'apaise, on a le temps de peser le pour et le contre, on enlève tout ce qui est émotion, ressentiment, et on va garder que l'essentiel, quelle a été la cause de notre division, ou de notre colère, ou de notre malentendu. C'est intéressant de décortiquer le malentendu.
Ah oui,
en deux mots. Oui, en deux mots. J'ai mal entendu, est-ce que tu peux répéter? Ah, c'est ça que tu voulais dire, excuse-moi, je n'avais pas bien compris. Alors, il nous invite encore à ne rien laisser paraître sur le visage. Et de retenir sa langue au profit de paroles douces et agréables. Alors, vous voyez, c'est plein de petits conseils très simples. Et chacun de nous, nous pouvons y travailler quotidiennement. Moi, j'invite assez facilement quand j'ai des griefs contre quelqu'un là que j'ai du mal à supporter, je vais m'obliger à lui trouver des qualités, des choses bien qu'il fait lui. Comme ça, il ne devient plus mon ennemi, il devient quelqu'un qui n'est pas parfait, qui a ses trucs qui m'agacent, mais il a aussi des choses bonnes. Et du coup, ça permet de faire tomber un peu les affaires. Et donc, vous voyez bien que la vertu de la douceur, même si elle est tournée vers les autres, elle demande d'être gérée en interne, en soi d'abord. Et puis, vous savez que Jésus, au début de l'évangile de Matthieu, il a le fameux discours sur la montagne, avec les béatitudes, dont l'une d'entre elles, c'est « Heureux les doux, la terre leur appartient ». Alors, on peut reconnaître qu'il peut y avoir parfois des saintes colères. C'est-à-dire des colères, il faut toujours regarder qu'est-ce qui a suscité la colère. Et si c'est une injustice, eh bien, peut-être qu'il faut que je travaille à ça. Donc, la colère est une énergie. Alors, soit que je continue à tout fracasser, soit je vais m'en servir pour lutter contre ce qui m'a mis en colère. Et si c'est une injustice, comment je vais pouvoir faire? C'est pour ça que Jésus il s'est mis en colère parce que la maison de son père a été utilisée comme argent de truc de brigand. Voilà. Donc après, il a viré les gens. Et puis, donc, on comprend que la morale de l'évangile est faite de dépassement de soi. C'est intéressant parce que ça me permet de progresser. Est-ce que j'ai le désir de progresser sur mon chemin spirituel? Et elle réclame du souffle. Et c'est pour ça que le Seigneur béatifie les doux. Et la douceur n'a rien à voir avec ce qu'imagine le monde. Souvent, notre monde, c'est il faut être fort, il faut être dur. Hein, plutôt que d'être doux, c'est pas toujours une très très bonne, très très bien vue. Alors, comment être concret pour vivre la douceur encore? C'est intéressant de voir que Saint-Vincent, vous savez que jusqu'à 36 ans, il a cherché surtout son honnête retirade, comme on dit. C'est-à-dire qu'il essayait d'avoir de l'argent et avoir de la notoriété. C'est pour ça qu'il est monté à Paris, il s'est placé auprès des grands de ce monde, il a hyper bien réussi, il a eu plusieurs bénéfices. Et puis, à 36 ans, il va avoir deux événements qui vont le faire complètement basculer. D'abord à Ganfolville en Picardie, où il va confesser un paysan. Et là, ça va être la découverte. Enfin, c'est un peu difficile de dire la découverte, parce qu'il avait déjà fait des confessions. Mais il s'est laissé toucher par la pauvreté spirituelle de ce paysan. Et c'est lui-même qui en parle, le paysan. Il le dit à Madame de Gondi, qui était de la haute noblesse. Et il dit à cette dame, si je n'avais pas été confessé, j'aurais été damné. À l'époque, on avait très très peur d'aller en enfer. Et c'est justement Madame de Gondi qui, elle, est choquée, et que du coup, elle va dire à Saint-Vincent, faites une mission, sonnez la cloche, et faites faire confession générale à tous les paysans. Elle le disait parce qu'elle-même, qui était propriétaire de toutes ces terres-là, c'est comme ça que ça marchait à l'époque, pour elle, c'était ses ouailles. Et donc, il fallait qu'elle prenne soin de ses ouailles si elle ne voulait pas aller en enfer. Vous voyez, au départ, c'est un peu tordu comme affaire, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Voilà. Donc, il y a eu la pauvreté spirituelle. Et puis, quelques mois après, il est du côté de Lyon. Et là, il va découvrir, se laisser toucher par une pauvreté matérielle. Il y a toute une famille qui est malade. Il n'y en a pas un qui est là pour soigner l'autre. Et il va organiser la charité. Voilà. Et il va remonter à Paris par la suite, et là il va virer tous ses bénéfices, et il va vraiment se mettre au service des plus pauvres, et de tous. Et c'est là qu'il est impressionnant, parce qu'il s'est occupé des pauvres de la campagne, des prisonniers, des galériens, les fameux enfants trouvés, c'est-à-dire ceux qu'on a abandonnés au fond des églises, tout bébé, hein. Les réfugiés, c'est pas d'aujourd'hui les réfugiés, les malades, les vieillards. Il envoyait les confrères dans les régions dévastées ou qui étaient en guerre. Il envoyait les sœurs, ça c'est une chose phénoménale. Il envoyait les filles de la charité sur les champs de bataille pour s'occuper des blessés. Et on s'en foutait si c'était un ennemi ou pas. Il était blessé, on en prenait soin. Et d'un bout à l'autre, même à la maison mère à Saint-Lazare, il y avait un asile de fous, comme on disait à l'époque. Il en prenait soin. Et plusieurs fois, il va en parler. Qu'il faut avoir grande délicatesse, même avec ceux qui ont plus de raison. Et il disait bien, c'est bien de faire le bien, mais ce bien-là, il faut le faire bien. Il faut bien le faire. C'est pas suffisant de le faire. Il faut le faire bien. Il insiste. Je dis ça parce que dans notre éducation, on a sûrement été habitué à faire notre BA. Hein, faut faire notre BA. Hein. Et ça peut devenir une obligation. Oui, bon, ben ça va, j'ai fait ma BA aujourd'hui. Ça va, j'ai coché, quoi. J'ai fait mon acte de charité. Et puis, on sait bien nous faire toucher la culpabilité. Hein, ben, t'es chrétien, et puis t'es pas capable de donner un peu, ou tout ça. Bon. Eh bien, Saint-Vincent, il dit, il faut vraiment le faire bien, c'est-à-dire que ça évoque ce que dit Saint-Paul, si je ne le fais pas par amour, ça ne vaut rien. Le chemin spirituel, il est là. Il n'y a pas de question d'être en règle, c'est la question d'être poussé, mu par l'amour. Et c'est ça qui me permet d'avancer sur mon chemin de chemin de sainteté. Ah oui, ça aussi, ça peut être une question à vous poser. Est-ce que vous priez souvent pour devenir des saints ? On sait qu'on le deviendra, donc je ne me fatigue pas. Non, mais c'est beau. Mais ça demande aussi un travail. Et je crois que c'est important d'oser dire oui, je vise la sainteté. Non pas d'une manière orgueilleuse, mais oui, je voudrais être davantage pétri de l'amour de Dieu. C'est ça, un saint. Je voudrais tellement que l'Esprit de Dieu soit en moi. Alors je vais vous proposer, parce que j'ai trouvé plein de textes de Saint-Vincent, il y en a beaucoup trop, je vais vous lire que des petits extraits, mais je voudrais vous les lire sous forme méditative. Donc je vais lire telle ou telle phrase, on gardera le silence, et j'en relirai une autre, voilà. Et comme ça vous accueillez dans votre cœur ce que nous dit Saint-Vincent Pour vivre la douceur, bien évidemment, chez lui, c'est la question du service. Et donc, je vous propose de rentrer dans cette intériorité. Et vous allez comme ça découvrir les différentes facettes de la question du service. Servant les pauvres, on sert Jésus-Christ. Oh, mes filles, que cela est vrai. Vous servez Jésus-Christ en la personne des pauvres. Et cela est aussi vrai que nous sommes ici. Une sœur ira 10 fois le jour voir les malades et 10 fois par jour, elle y trouvera Dieu. Allez voir de pauvres forçats à la chaîne, vous y trouvez Dieu. Servez ses petits-enfants, vous y trouverez Dieu. Oh mes filles, que cela est obligeant. Vous allez en de pauvres maisons et vous y trouvez Dieu. Il faut donc traiter les pauvres avec douceur et respect, vous souvenant que c'est à notre Seigneur que vous rendez ce service, puisqu'il le tient fait à lui-même. Parlant des pauvres, ce que vous avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. S'il est malade, je le suis aussi. S'il est en prison, j'y suis. S'il a des fers aux pieds, je les ai avec lui. Je ne dois pas considérer un pauvre paysan ou une pauvre femme selon leur extérieur, mais tournez la médaille et vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres, qu'il n'avait presque pas la figure d'un homme en sa passion. Il se qualifie lui-même l'évangéliste des pauvres. Ô Dieu, qu'il faut beau voir les pauvres si nous les considérons en Dieu et dans l'esprit que Jésus-Christ en a fait. Ô ma sœur, combien serez-vous consolée à l'heure de la mort d'avoir consommé votre vie pour le même sujet pour lequel Jésus-Christ a donné la sienne. C'est pour la charité, c'est pour Dieu, c'est pour les pauvres. Si vous connaissez votre bonheur en vérité, ma sœur, vous seriez ravie de joie. Car en faisant ce que vous faites, vous accomplissez la loi et les prophètes qui nous commandent d'aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Et quel plus grand acte d'amour peut-on faire que de se donner soi-même tout entier, d'état et d'office, pour le salut et le soulagement des affligés? Voilà toute notre perfection. Or, comme Dieu nous a destinés pour les servir, nous le devons faire en la manière qui leur est la plus profitable, et par conséquent, les traiter avec grande affabilité, et prendre cet avertissement du sage comme s'adressant à chacun de nous en particulier, « Rendez-vous affable à l'assemblée des pauvres ». Il faut dire quelque chose de l'amour des pauvres que vous devez chérir et caresser, ni plus ni moins que la Sainte Madeleine caressait, chérissait Jésus-Christ en lui lavant, baisant et essuyant les pieds. Les pauvres dans l'Église sont comme les pieds de Jésus-Christ, et vous lui gagnez autant de cœur Que fit cette divine pénitente si vous faites les petits services aux pauvres de votre hôpital dans la tendresse et l'amour que cette sainte fille faisait ? Elle était tellement attentive à plaire à son céleste époux qu'elle n'écoutait point les calomnies et les reproches qu'on lui faisait de sa mauvaise vie, ni de toutes les autres moqueries qu'on lui faisait. Je vais continuer de la même manière avec un texte qui est en fin de compte le règlement de la première charité à Châtillon à côté de Lyon. C'est impressionnant comment lui qui a vécu auprès des grands, vous allez écouter comment il est très concret quand une dame de la charité, c'était avant les filles de la charité, des laïcs donc, ce qu'elles avaient à faire, en sachant qu'on est au XVIIe siècle, hein, mais écoutez bien. Donc, c'est des personnes de bonnes conditions qui vont se mettre au service de pauvres qui sont souvent dans des situations très très dégradées. Enfin, chez eux, c'est très sale, il n'y a presque rien, vous allez le comprendre. Donc, dans le règlement, il est dit, celle qui doit aller servir, la première chose qu'elle fera sera de voir s'il a besoin d'une chemise blanche. Elle le fera confesser pour se communier le lendemain. Avant toute chose, lui portera une image d'un crucifix qu'elle attachera en lieu qu'il la puisse voir, afin que, jetant parfois les yeux dessus, il considère ce que le Fils de Dieu a souffert pour lui. Portera encore les meubles qui lui seront nécessaires, comme une tablette, une serviette, une gondole, une écuelle, un petit plat ou une cuillère. Elle apprêtera le dîner, le portera aux malades, en les abordant, les saluera gaiement et charitablement, accommodera la tablette sur le lit, mettra une serviette dessus, une gondole et une cuillère et du pain, fera laver les mains au malade et dira le bénédicité, trempera le potage dans une écuelle et mettra la viande dans un plat, accommodant le tout sur ladite tablette, puis conviera le malade charitablement à manger pour l'amour de Jésus et de sa Sainte Mère, le tout avec amour, comme si elle avait affaire à son Fils, ou plutôt à Dieu qui impute fait à lui-même le bien qu'elle fait aux pauvres. Elle dira quelques petits mots de notre Seigneur, en ce sentiment, tâchera de le réjouir, s'il est fort désolé. Et l'ayant ainsi mis en train de manger, s'il a quelqu'un auprès de lui, le laissera et en ira trouver un autre pour les traiter en la même sorte, se ressouvenant de commencer toujours par celui qui a quelqu'un avec lui et de finir avec ceux qui sont seuls afin de pouvoir être auprès d'eux plus longtemps. Puis reviendra le soir leur porter à souper avec même appareil et ordre que dessus. Je vous propose qu'on continue notre méditation avec justement le chant qui est en fin de compte l'hymne à l'amour de saint Paul aux Corinthiens.
Amen. et connaîtrais tous les mystères, parlerais-je les langues des anges, sans amour je ne suis rien.
L'amour jamais ne passera,
faudrait beaucoup reprendre les textes que j'ai dit de Saint Vincent. Et vous avez vu ô combien c'est hyper précis. Et peut-être que ça nous paraît assez correct, même dans le règlement de Châtillon, de prendre une table, de mettre une nappe, de faire laver les mains ou une serviette. Mais on est chez des pauvres du XVIIe siècle. La nappe, ça n'existe pas. La serviette non plus, laver les mains, quand on y pense. Vous voyez, c'est rempli de délicatesse. Il demande de faire ça à des gens de la bonne société, quoi. Ô combien ils ont eu à développer ce chemin. Ben oui, je vais prendre soin de l'autre. Et vous avez vu aussi cet équilibre entre le côté très matériel et le spirituel. Il reviendra sans cesse là-dessus. Quand on va prendre soin d'un pauvre, c'est toujours spirituellement et corporellement. Alors, au fil de la charité, qui était davantage sur le corporel, il insistait un peu plus pour dire il faut du spirituel, parce que les soignés, ben, il y en a d'autres qui le font. Mais vous, c'est corporellement et spirituellement. Aujourd'hui, on dirait prendre soin d'une manière intégrale, l'entièreté de la personne. C'est peut-être ce qui fait très grand défaut dans notre société, d'ailleurs dans les hôpitaux. Le côté spirituel, on ne veut pas en entendre parler. Or, c'est aussi ça qui aide à s'en sortir. Et les confrères qui étaient davantage dans les prédications, les confessions et tout ça, ils seraient peut-être contentés que du spirituel. Ils disent non, il faut aussi s'occuper du matériel. Et donc les confrères, ils avaient à prendre soin corporellement aussi des personnes, soit par eux-mêmes, soit de l'organiser, quoi. Donc, toute la question de la vertu de la douceur, c'est de bien servir. Nous avons tous en nous Marthe et Marie. Vous connaissez le passage de l'Évangile, vous pourrez peut-être le reméditer. Et selon qui nous sommes, on a un peu plus Marie ou que Marthe, ou le contraire. D'accord ? Puis ça dépend aussi des périodes, vraiment des moments. Nous avons à tenir l'équilibre entre les deux, elles n'ont pas à être opposées. Mais je connais beaucoup de personnes qui sont très, 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 très investi dans le monde de la charité, dans plein d'associations, les Restos du Cœur, le Secours Catholique, à la paroisse, à ceci, cela. Elles sont toujours au service. Extraordinaire. Sauf qu'elles ne se supportent pas. Et c'est... Il faut faire très, très, très attention. Parce que normalement, quand on est au service, comme nous le dit Saint Vincent, c'est se donner. D'accord ? Je me donne dans le service. Je ne fais pas que donner à quelque chose à manger. Je me donne. Mais si je considère que je suis nul, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas capable de rester 5 minutes avec moi-même, si je considère que je suis nul et que je me donne aux autres, alors qu'est-ce que je donne aux autres ? Excusez-moi de revenir sans cesse hein, sur cet équilibre-là. Il faut que je repère que je suis une merveille pour pouvoir ensuite l'offrir aux autres. Et pour servir les autres, il y a aussi quelque chose à faire. C'est apprendre à se laisser servir. Est-ce que vous aimez être servi ? Ah, c'est bien, il y en a qui disent oui. Je suis content. Mais en général, on n'aime pas trop. Hein. On n'aime pas trop les coups de main, parce que, ah, mais ça va, je vais me débrouiller, pas besoin de toi. Derrière ça, il y a la question de l'autonomie, voire de la totale indépendance, j'ai besoin de personne. Et de fait, quand on est tout petit, on nous apprend à se débrouiller par nous-mêmes. Donc on grandit sur une totale autonomie. Et quelque part, c'est bien. Mais jusqu'à l'excès, à un moment, ça ne va plus. Surtout que le grand âge, ça va être le temps, justement tout le contraire, d'apprendre à se laisser faire. Mais avant d'en arriver là, si je veux bien servir quelqu'un, il faut que j'apprenne à me laisser servir. Parce que ça permet de savoir ce que ça produit chez l'autre. Comment ? Oh, ça dépend des gens. Je l'ai eu fait vivre dans plusieurs récos. C'est des gens qui étaient justement dans des associations caritatives. Donc, ils étaient systématiquement en attitude de service, au moins un moment dans leur semaine. Et donc, pendant la réco, plusieurs fois, j'ai préparé un goûter pour le petit topo de l'après-midi. Yaourt ou cake, tranche de cake. Et je dis à chacun, prend ce qu'il voudrait goûter là. Bon, ils prennent. Et avant de prendre, je dis, attendez, vous n'allez pas le manger vous-même ? C'est votre voisin qui va vous donner à manger. Ouh, mais ça. Est-ce que je suis prêt à me laisser aider jusqu'à c'est l'autre qui va me donner la béquille? Alors c'est très très marrant à voir parce que ça se fait dans une bonne détente après la surprise, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont assez à l'aise à donner, d'autres moins, puis d'autres ils ont un peu de difficulté à se laisser faire. Intéressant de faire un parcours les yeux bandés et se laisser guider par quelqu'un d'autre. C'est toute la question de la confiance. Pas facile. Et ainsi de suite. Se faire pousser dans un fauteuil, ça paraît simple. Oui, mais enfin, quand on voit la porte qui arrive et que l'autre, il avance vite. Oui, c'est plein de petits détails. Si je veux servir, il faut que je sache ce que ça veut dire que d'être servi. Et puis, il y a des manières de servir qui sont presque humiliantes. Saint Vincent, il a des passages aussi extraordinaires là-dessus. Parce que quand on veut aider l'autre, indirectement, on risque fort de lui dire, enfin, se sans le dire, mais en gros, on lui dit, t'es pas capable. Et on le rabaisse. Mais donc, c'est pas simple. C'est beaucoup plus facile de faire que de faire faire. J'ai eu la grâce, mais c'est vraiment une grâce, d'avoir été animateur pendant plusieurs années à la Fraternité des Malades et Handicapés, c'était en Lozère. Et donc j'étais avec des jeunes de mon âge, dans 20, 25 ans, 30 ans, il y avait aussi des plus âgés, mais je m'occupais plus particulièrement des jeunes. Il y a Gégé, Gérard, il reste très très ancré en moi parce qu'il m'a appris la vie. C'est un gars multi-handicapé, physique et mental, incapable de quoi que ce soit. Il ne savait pas marcher, il ne savait pas faire fonctionner ses bras, il allait là où il voulait. Il ne parlait pas. La seule manière de parler, c'était d'avoir un super album de photos. Et donc, il nous montrait une photo. Bon, d'accord, on voyait la maison. Après, il tournait une dizaine de pages de notre côté. Ah, l'été. OK. Après, il retournait plein de pages. Ah, maman. Ah, cet été, avec maman, tu vas à la maison. Voilà, comme ça qu'on parlait. Donc, c'est très lent. Et son plaisir à lui, c'était de montrer qu'il était capable de faire quelque chose. Donc, le matin, il voulait faire son lit. Moi, j'en avais pour moins de 2 minutes de faire son lit. Surtout en été, il n'y a pas grand-chose à faire. Lui, ça lui prenait plus de 20 minutes. Des fois, il tirait le drap. Il était à genoux sur son, par terre. Et il tirait le drap avec ses dents. Voilà. Mais il était fier. Vous voyez, aider, c'est parfois rester juste à côté sans rien faire. C'est plus décapant. Ça développe d'autres vertus, style la patience, le renoncement, on renonce à l'efficacité. Mais voilà, donc du coup, la première chose que nous pouvons peut-être avoir à faire quand on veut aider quelqu'un, c'est: est-ce que tu as besoin d'aide? Première chose, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu veux que je t'aide? Et s'il dit oui, parce qu'on a bien vu le problème, du coup, on serait vite tenté de le faire. La deuxième question, c'est: de quelle manière tu veux que je t'aide? C'est pas obligatoirement de réussir à ce que lui, il patine à ouvrir une boîte ou je sais pas trop quoi. Peut-être qu'il veut vraiment y arriver par lui-même. Et peut-être qu'il va nous demander tout autre chose. C'est décapant, hein? C'est être vraiment au service. Et Saint-Vincent viendra et redira très souvent: ils sont nos seigneurs et nos maîtres, les pauvres. Parce qu'ils nous représentent Jésus-Christ. Mais c'est aussi, concrètement, ben, je me laisse guider. Et là, quand j'étais à la Fraternité des Malades, ils m'ont appris à être à leur service. Déshabiller quelqu'un qui est complètement handicapé, tu ne sais pas s'il va avoir mal ou pas mal. Alors, avec beaucoup d'humour, parce qu'on était jeunes entre nous. Ouais, vas-y, celle-là, tu peux tirer, je ne sens rien, vas-y. Bon, voilà, il y a de l'humour aussi dans l'apprentissage. Et il y a de la fraternité, du coup. Voilà, du coup, il y aura encore certainement beaucoup de choses à dire sur ces dimensions de service, mais ça demande à être concret. Ça demande à: est-ce que je veux vraiment prendre soin de l'autre? Est-ce que je vois en lui un frère ou une sœur? Trop souvent, on ne voit qu'un handicapé. D'ailleurs, maintenant, on ne dit plus handicapé, on dit une personne handicapée ou personne à mobilité réduite. On n'arrête pas de changer le mot. Mais pour essayer de tendre à plus de respect et à être le moins possible dans une relation décalée. Parce que très souvent, quand je suis au service, je suis en supériorité vis-à-vis de l'autre. Puisque c'est lui qui t'en demande. Tiens, petit exercice. Si vous me rendez service toute une après-midi, là vraiment je vous demande quelque chose et je vous dis franchement là avec tout ce que tu m'as aidé là, vraiment merci, vous me répondez quoi?
Merci.
Bup. Et oui, et très souvent on a été habitué à dire de rien. Et bien je suis désolé, mais c'est pas rien de passer toute une après-midi à rendre service à quelqu'un. D'ailleurs, on tend à être une société qui rend des services, mais payants. Même le facteur, maintenant, il peut venir chez quelqu'un si on le paye. C'est terrible. Alors, l'autre truc, c'est normal. Mais c'est comme le coup des bonnes notes pour l'élève, on le met pas en... Voilà. Et c'est pas non plus tout à fait une bonne justice. Parce qu'en fin de compte, celui qui vous dit merci, c'est la seule chose qu'il puisse vous offrir. Il a rien qu'un merci. Alors d'abord, si vous dites de rien, il va renchérir. Ah ben si. Donc l'humilité demande de savoir accueillir un merci, et j'ai entendu plusieurs qui l'ont dit, avec plaisir. Parce que si tu l'as fait vraiment avec plaisir, ben il n'y a pas de souci. voyez, le chemin de sainteté, le chemin de douceur, le chemin de service, il passe par des tout petits riens, des changements d'attitude ou d'habitude ou de réflexion. Et en termes chrétiens, merci, ça peut aussi se dire action de grâce, qui se dit aussi Eucharistie. Donc on peut carrément transcender ce moment-là et dire, mais je te, ou, voilà, avec plaisir, et je te remercie aussi parce que tu m'as permis de passer un bon moment. Et du coup, nous nous réjouissons mutuellement.
Et quand on dit « je t'en prie », je sais pas ce que ça...
Je t'en prie. Ouais, je sais pas trop. D'abord, je ne prie que Dieu. Mais je trouve que la plus belle attitude, c'est ben, avec plaisir. Des fois, il y en a qui me disent, ah, excuse-moi de te déranger. Oui, c'est vrai que tu me déranges, mais je suis content que tu me déranges. J'aime bien être dérangé. Voilà, ça change l'habitude, ça casse la routine. Je vais vous proposer de... Un autre petit... chant. Ne soyez pas choqués, c'est toi le pauvre, toi mon frère, tu as du prix à mes yeux. Alors certains ils sont choqués en disant oh, mais on dit pas le pauvre, mais c'est pour la chanson et vous allez voir la progression dans les couplets. Non, c'est pas ça. Il me faut mettre. Alors, excusez-moi. Oh, pardon.
Le pauvre, toi, mon frère, tu as du prix à tes yeux. Moi, j'ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme le Père, il nous veut debout heureux. Un jour autour de la terre, la charité prendra feu. Je viens vers toi, comme me mendiant de me donner. Je viens vers toi, et que m'importe ton histoire. Mon espérance est ton espoir. Entre nous, il suffit de le pauvre, toi, mon frère, tu as du prix à mes yeux. Moi, j'ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme père, il nous veut debout heureux. Un jour, autour de la terre, la charité prendra feu. Je viens vers toi, avec mes croix, mes écorchures. Je viens vers toi, tu me relèves ton visage, c'est pourtant alors viens, on va s'entraider. Toi, le pauvre, toi, mon frère, tu as du prix à mes yeux. Moi, j'ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme père, il nous veut debout heureux. Un jour, autour de la terre, la charité prendra feu. Je viens vers toi, avec mon Dieu et mes idées. Je viens vers toi, et tu bouleverses ma raison. Ma prière explose en action. Par ta vie, Dieu vient m'appeler. Toi, le pauvre, toi, mon frère, tu as du prix à mes yeux. Moi, j'ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme père, il nous veut debout heureux. Un jour, autour de la terre, la charité prendra feu. Je viens vers toi, avec mes efforts de partage. Je viens vers toi, et tu m'inverses le cadeau. Je reçois 100% plus beau. Avec toi, je suis transformé. Toi, le pauvre, toi, mon frère, tu as du prix à mes yeux. Moi, j'ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme père, il nous veut debout heureux. Un jour, autour de la terre, la charité prendra feu. Dieu se donne comme père, il nous veut debout heureux, un jour autour. terre, charité prendra feu. Pauvre toi, mon frère, tu as du prix à mes yeux. Moi j'ai aussi ma misère, et du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme père, il nous veut debout heureux. Un jour autour de la terre, la charité prendra feu.
Voilà, c'est intéressant dans cette chanson, c'est la transformation de celui qui se met au service. Hein, couplet par couplet, au départ on pense qu'on va beaucoup aider l'autre, puis petit à petit ben, il nous bouscule, et puis en final, ben, de fait, on reçoit beaucoup. Hein, ça, on fait tous ce constat-là. Donc du coup, c'est vraiment le chemin de la fraternité que d'emprunter avec douceur le chemin du service. Et vous comprenez avec tout ce qu'on vient de dire là, que la sixième vertu de Saint-Vincent, la charité, on l'a plus particulièrement encore travaillée aujourd'hui que les deux autres premières fois. Un dernier aspect sur la... Enfin, il y aura sûrement d'autres, beaucoup, hein, mais pour ce soir, une autre manière de vivre la douceur, c'est-à-dire la relation aux autres, pour qu'elle soit agréable, bonne, harmonieuse, c'est la question du pardon. Des fois, oui, obligatoirement, il y a des embrouilles entre des personnes. Est-ce que je suis capable de proposer des chemins de réconciliation, des chemins de pardon? Alors, ça peut être aussi jusqu'au sacrement du pardon. Juste pour vous dire des fois un peu ce qu'on a dans notre tête. Un jour, avec des ceux qui allaient vivre la profession de foi ou la confirmation, je ne sais plus, il y avait une rencontre de parents et on leur donne le programme que les jeunes vont vivre lors d'un week-end. Et on leur dit, entre autres, ils vont vivre la confession. Et il y a deux mamans, spontanément, qui ont dit, oh, vous n'allez pas leur faire subir ça. Elles avaient été marquées négativement par le sacrement du pardon que, ah non, 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 il ne faut surtout plus. C'est fou, hein? Aussi un autre exemple, parce que ça dit un peu la mentalité dans laquelle on est. Pareil pour un week-end de jeûne, donc il y a proposition de la confession, et puis il y a un premier jeune animateur qui arrive, et donc je dis ben vas-y, assis-toi. Enfin, je viens, mais en fin de compte, c'est pas pour me confesser, parce que moi j'y crois pas du tout, c'est juste pour donner l'exemple aux plus jeunes pour qu'ils osent venir. Alors. C'est sympathique de sa part. Il veut se montrer comme modèle en tant qu'animateur. Je trouve que la démarche est belle. Mais ça veut dire qu'il n'a pas touché le mystère du pardon. C'est fou. Parce que si on garde la démarche du pardon qu'au niveau intellect, d'abord, on va dire dans notre société, pardonner, c'est pour les faibles. Et on ne se met pas à genoux. Mais là aussi, il y a un homme en campagne qui me disait « Moi, je me mets à genoux à la messe, c'est pas pour m'y mettre dehors. » Ce n'est pas pour m'y mettre dehors. Se mettre à genoux dehors, c'est-à-dire devant quelqu'un. Il ne voulait pas faire des démarches de pardon parce qu'il y avait un bisbille avec un voisin. C'est terrible. Quelle unité nous avons entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain? C'est toujours cette question-là qui est derrière. Hein. Et puis du coup, c'est voilà, c'est un gros travail hein, de vivre le chemin du pardon. Mais ô combien il est libérateur. Il faut bien entendre le pardon en deux mots. C'est-à-dire qu'il n'y a pas droit, c'est un don. C'est un surplus. Est-ce que je suis prêt à recevoir un pardon? C'est toute la tendresse de Dieu qui est là. On pourrait regarder, là encore, toutes nos relations, famille, amis, voisinage, travail, tout ça. Quelle est la qualité relationnelle que nous entretenons? Est-ce que, au fil des temps, il n'y a pas quelques griefs qui sont un peu empilés? Puis que c'est devenu des vrais dossiers et carrément des bibliothèques contre l'autre, mais pour faire bien, on n'en parle pas. Eh oui, mais enfin, l'autre, il sait très bien, hein, parce qu'il a les mêmes placards dans son cœur. Hein. Vous voyez, donc, on fait le faux. Mais c'est pas harmonieux, c'est pas doux. Et puis, dès qu'il y a une petite grief, oui, bah, de toute façon, te rappelles l'autre jour, toi-même, tu m'as bien dit ça, et voilà, on est reparti, et on ressort toute la litanie. Donc, il peut être intéressant, encore une fois, de regarder ce qui va bien, et d'en rendre grâce. Et puis, les choses qui vont mal, est-ce que tu vas être capable de faire un chemin de vérité? Parce que c'est ça, le pardon. C'est oser venir dire à l'autre, je suis pas top, je suis pas parfait. Puis l'autre jour, dans la manière dont il y a quelque chose qui m'a agacé, et donc je t'ai mal parlé, j'ai mal agi, enfin peu importe. Mais voilà, je voudrais régler ça avec toi, quoi, parce que je trouve que c'est trop dommage. On vit de belles choses, c'est dommage de l'enlaidir avec le péché. C'est peut-être intéressant de repérer aussi, lorsque l'autre m'a blessé, voilà, qu'est-ce que ça a fait en moi? Et quand je fais ça avec des jeunes, là, je leur demande, d'abord, quand ils sont en petite vie amoureuse avec des lycéens, ça marche mieux. Quand tu es avec ton copain ou ta copine, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils parlent plein de belles choses, ça, c'est tout beau. Puis après, et le jour qu'il t'a trahi, alors là, ça va beaucoup plus vite. Alors là, c'est terrible, terrible, terrible. Il y a plein de mots très violents, la haine, la rage, la vengeance, la violence, je suis trop nul, je ne suis pas à la hauteur. Enfin, vraiment, il y a de tout très, très lourd. Donc, dès que j'ai été blessé, il y a tout ça en moi. Il faut oser le regarder. Et dire, ben, on met le mouchoir dessus, on n'en parle pas, c'est pas se respecter soi. On est dur avec nous-mêmes. Hein. Et il y a d'ailleurs très souvent dans la liste qu'il donne, je vais me venger, je vais l'insulter, je vais le frapper, je vais, voilà tout ça. Il manque un mot. Lorsque l'autre m'a trahi, j'ai été blessé. Il faut reconnaître que j'ai été blessé. Si je reçois un coup de couteau, bien évidemment, je vais aller voir l'infirmière. Et elle va me soigner. Mais les bleus à l'âme, on a plus de mal. Or, c'est ça le sacrement du pardon. Et c'est tellement bon. Tellement bon de se laisser soigner par la grâce de Dieu. Donc d'abord pour nous-mêmes, et puis pour continuer l'œuvre de Dieu qui nous veut une fraternité à la famille humaine qui soit une famille harmonieuse. Et sans le pardon, on ne peut pas aller loin. Parce qu'obligatoirement, à un moment ou à un autre, on se fait des griefs. Parce que le tentateur, il est là. Il est très fort pour nous faire tomber. Bien évidemment, il faut aussi entendre oui, non, mais de toute façon, c'est lui qui a tort. Ouais. Toutes les mamans connaissent ça si elles ont eu deux enfants, qu'ils ont fait des bêtises. Qui c'est qui a commencé? C'est pas moi, maman, c'est lui. C'est comme Adam. Ils ont mangé tous les deux le fruit. Et il va voir Adam, il dit: alors, t'as mangé le fruit? Ah, c'est pas moi, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors lui, il accuse carrément les deux. Hein. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc moi, franchement, je suis qu'une pauvre petite victime. Et je suis pour rien, moi. Hein. Voilà. Et du coup, si c'est l'autre qui a tort, si c'est l'autre qui a agressé, donc moi, je suis quoi? Je suis qu'une pauvre petite victime. Sûrement, vous connaissez le petit Calimero, le petit dessin animé d'un petit poussin noir avec sa coquille blanche. Et puis, tous les épisodes, c'est vraiment trop injuste. Il n'y a qu'un seul mois que ça t'arrive. Et puis, c'est vraiment trop injuste. Il n'y a personne qui m'aime, moi. Je suis qu'un pauvre petit malheureux. Alors, il est tellement mimi qu'on a envie de le prendre là, dans nos bras, tout mimi. Or, excusez-moi, mais c'est un virus spirituel. C'est vraiment un virus spirituel. Parce qu'il nous fait tomber dans la vase. Il faut le foutre dehors. Pas de Calimero dans mon cœur. Il faut que je le vire et il faut que j'assume. Parce qu'en fin de compte, derrière ça, il y a la question de je ne suis pas responsable. Quand il y a eu grief, hein, souvent ça démarre avec des petits riens. Et puis simplement, j'ai surenchéri un tout petit peu. La question des insultes, c'est ça. Et après, on en vient aux mains. Mais au départ, c'est très souvent presque rien. Donc, de fait, c'est toujours l'autre qui a commencé. Mais, quelque part, je suis au moins complice. Peut-être pas pour tout, mais... sur ce point-là, je vous fais juste une petite digression, mais c'est intéressant d'entendre que le mal, il n'a que trois moyens pour nous piéger. Ça se voit en Luc 4, quand Jésus est au désert pour les tentations. Il va le tenter trois fois. Et en fin de compte, c'est la question de l'avoir, du pouvoir et du valoir. Alors, ce qui est fort intéressant, parce que j'ai été très attentif au couplet de Bourville dans La Tendresse, il dit on peut vivre sans le sou, on peut vivre sans gloire, ouais, et on peut vivre sans travail. Bon, c'est l'argent. Mais c'est les mêmes tentations. C'est étonnant. Le mal a trois points. Et la fin de l'évangile de Luc se termine en disant le mal ayant épuisé tous les moyens de le tenter se retira. Tous nos problèmes n'ont que trois causes. Avoir, pouvoir, valoir. Du coup, si je veux avoir une relation harmonieuse avec les autres, c'est intéressant de savoir, tiens, c'est dans quel coin qui me titille. Dans les réunions, là, mais celui-là qui veut toujours prendre la parole, là. Pourquoi c'est toujours lui qui décide, là? Hé, hey, tic, 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 cocorico, je vais prendre moi ma place. Je veux m'imposer. Donc, trois tentations. Et Jésus, puisqu'on est en temps de carême, c'est intéressant d'entendre ça, Jésus va nous donner dans son enseignement trois antidotes. Face à l'avoir, il va nous proposer de jeûner, plutôt que d'en avoir toujours plus. Non, je peux. Alors c'est pas obligatoirement jeûner nourriture, mais au niveau des vêtements, au niveau du matériel, au niveau de je ne sais trop quoi. Qu'est-ce que je crois être indispensable? Et en fin de compte, quand je m'en prive, maintenant je m'aperçois que je peux vivre sans. La deuxième, face au pouvoir, je veux dominer l'autre, je vais faire l'aumône, c'est-à-dire la charité. C'est-à-dire, est-ce que je peux me mettre à ton service? J'inverse complètement le système. De dominateur, je deviens serviteur. Et le troisième, face au valoir, moi, la prière. Je sais qu'il y a plus grand que moi. Et puis, chez les religieux, nous faisons trois vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. C'est trois autres antidotes. Puisque la pauvreté, bon, on n'est pas pauvre, hein, on n'est pas des miséreux. Mais on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre, en fin de compte. Donc, voilà, c'est assez simple. La chasteté, très souvent, on l'a réduit à l'aspect sexuel. Mais la chasteté, c'est surtout ne pas avoir la main mise sur l'autre. C'est ça la chasteté. C'est pour ça qu'on demande à des couples de rester chastes. C'est pas qu'ils aient pas de relations sexuelles, mais de ne pas dominer son conjoint ou sa conjointe. Tout un travail, hein. Et puis, l'obéissance. Voilà, je ne fais pas que ce que je veux. Je sais que je mets ma... Je décide que quelqu'un d'autre décide pour moi. Et du coup, c'est des moyens qui peuvent m'aider à être en meilleure relation avec les autres. Et donc, dans ces cas-là, tout ça, ça m'amène à vivre davantage la vertu de la douceur. Puis, bien sûr, Saint-Vincent va nous dire aussi, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de Ganfolville avec le paysan à qui il a confessé. Et pour lui, ça va être un très, très grand point dans toutes les missions qu'il va faire. Il va inviter au pardon et ce qu'on appelle la confession générale. Un peu repasser toute notre vie, puis oser dire, ben voilà, il y a ça qui traîne dans le fond d'un placard de ma tête, là. Je vais encore l'offrir au Seigneur, quoi, pour m'en dégager. Et après, il faut savoir que Dieu met nos péchés au plus loin, derrière lui, et donc après, il faut accueillir son pardon. Et dire, voilà, je suis quelqu'un de nouveau, et j'avance dans sa grâce. Bon, on entend facilement, hein, bien sûr, que je pardonne, mais je n'oublie pas. Ben, c'est évident que si tu m'as coupé la main, je peux te pardonner, mais je ne vais pas l'oublier, hein, j'ai plus de main. Mais donc, c'est beaucoup plus fort que ça. Il peut y avoir aussi une différence entre pardon et réconciliation. Il y a des personnes, voilà, je peux te pardonner, mais réconciliation, ça veut dire qu'on reprend la route ensemble. Il y a peut-être des situations, ben non, on va mettre à distance. Donc, je te donne la pardon, va en paix, mais... On va trop se friter, donc... Voilà. Tout cela pour dire que on a plein de moyens très simples pour améliorer nos relations avec la simple vertu de douceur. Donc, je vous souhaite une bonne semaine de revisiter un peu tout ça, toutes vos relations. À la sortie, à côté du panier, pour ceux qui veulent mettre quelque chose parce qu'ils ont leur poche trop pleine, il y a de nouveau des textes sur Saint-Vincent, sur la douceur. Donc, prenez le temps de les méditer. Hein, c'est des petits extraits. N'hésitez pas à vous arrêter sur un seul, le méditer, faire le lien avec votre vie. Et puis, bien évidemment, puisqu'on a parlé du pardon, on va s'adresser au Père, si vous voulez bien, en concluant notre prière. En portant tout particulièrement, justement, toutes nos relations, la famille, les amis, les voisins, le monde du travail, notre vie en paroisse, en communion et en lien avec toutes ces personnes, Seigneur Dieu, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu miséricorde nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.
Bonne soirée et à jeudi prochain.
Merci beaucoup.